Dieu Père, c'est une joie de se retrouver ce matin, c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir ouvrir ta parole et apprendre de toi, de ce que tu veux nous transmettre. Donne-moi d'être fidèle à ta parole, donne-nous d'avoir des cœurs ouverts pour écouter ce que tu as à nous dire et que ça puisse travailler dans nos vies, que ça puisse être un encouragement, un espoir, une raison pour tenir ferme aussi. Je te remercie pour cette parole merveilleuse. Quasiment surnaturel, enfin, qui nous arrive comme ça avec la Bible. Et puis on va t'en remercier encore et te louer pour cela. Amen.
Amen.
Alors, dans quelques jours, on va fêter, peut-être commémorer plutôt, les 100 ans de la révolution d'octobre en Russie. Un certain Vladimir Ilitch Lénine a pris le pouvoir à Petrograd. Ils sont décidés en peu de temps et il a bouleversé l'histoire de la Russie et même dans une certaine mesure du monde. Il arrive comme ça de temps en temps dans l'histoire qu'il y a des moments pivots où un homme, de par sa résolution, un leader, va prendre une décision qui va changer au moins son pays, si ce n'est le monde. Il est souvent suivi d'ailleurs d'une équipe de partisans. Il y a une citation célèbre que je pense personne n'a compris, qui dit « Alea iacta est ». Ça vous dit quelque chose? Pourtant, ça vous dit quelque chose. Donc c'est César qui décide, avec ses mots, le sort en est jeté, il décide d'aller vers Rome avec son armée en armes pour prendre le pouvoir et commencer ce qui sera par la suite l'Empire romain. Le passage que nous allons voir ce matin, qui est même en fait toute une section de l'évangile de Marc, vous savez que j'aime beaucoup l'évangile de Marc, ça nous raconte un événement de ce type-là. Alors, ça va du chapitre 8 au chapitre 10 de l'évangile de Marc, alors respectivement, chapitre 8, verset 27, à 10, verset 45. Et alors, je vous conseille, si vous avez une Bible, de l'ouvrir, parce que ça va être difficile pour Florent de suivre. Donc, pensez à Florence. Je ne vais pas le lire en entier. Vous pourrez le refaire chacun de votre côté. On va le parcourir dans un premier temps, tout ce texte qui est relativement long. On va voir, je vais surtout zoomer sur quelques points qui reviennent. Et puis ensuite, on va extraire des enseignements relatifs aux partisans qui suivent le leader. Et ensuite, des enseignements sur le leader. Alors, quelques mots sur l'évangile de Marc. Dès le début de l'évangile de Marc, Jésus, on voit Jésus, qui est le personnage, c'est vraiment le personnage central de l'histoire, il appelle des disciples à le suivre. Ils vont le voir, qui enseigne avec autorité, qui fait des miracles. Il se comporte comme un prophète, il dénonce le péché, il annonce la venue du royaume, plusieurs reprises. Mais qui est étrange, on pourrait dire dans la Bible c'est peut-être classique, mais en fait non, parce que là ça fait 5 siècles qu'on n'a pas vu de prophète en Israël, et un prophète comme celui-là, qui fait des miracles extraordinaires, peut-être plus grand encore qu'Élie ou Élisée, ça c'est surprenant, et ça soulève des questions, il y a ces questions qui se posent, qui est ce Jésus, qui est-il? Est-ce que c'est ce Messie, on a parlé ce matin de loin, le Messie, tant attendu? Il y a des gens qui ne pensent pas que c'est le cas, en particulier les autorités religieuses qui s'opposent à lui et qui même complotent déjà contre lui. Jésus va nommer parmi ses disciples 12 apôtres au chapitre 3, donc relativement vite dans le récit. Et ensuite, on va le voir à plusieurs reprises comme aller vers les nations. Il traverse la mer de Galilée. On va le voir plusieurs fois qu'il prend le bateau pour aller vers les non-juifs. Et puis enfin, on arrive à notre chapitre et à un moment crucial, si ce n'est le moment le plus crucial de l'évangile de Marc. On est à Bethsaïda, au bord du lac de Galilée. Et en fait, on est à Césarée de Philippe, en fait. Il est allé du bord du lac de Galilée à Césarée de Philippe. C'était une ville fondée, Césarée, pour un César, César Auguste. Et dans toute cette section, Jésus va se déplacer avec ses disciples de Césarée jusqu'aux portes de Jérusalem. C'est assez rigolo, peut-être qu'il faudrait faire une étude là-dessus. Cette section est entourée par deux guérisons d'aveugles, un à Bethsaïda et donc un à Jéricho. Alors, je vais mettre mes notes. Jésus, alors, arrive à poser la question que tout le monde se pose depuis le début de l'évangile. Il va la poser à ses disciples. D'après vous, qui suis-je? Verset 27, 29 du chapitre 8. D'après vous, qui suis-je? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Le Messie, c'est le Messie. Le Messie qui avait été annoncé à David depuis 1000 ans. Alors on l'a un peu vu ce matin, le Messie ou Christ, Christ c'est le même mot en grec, ça veut dire oint, c'est-à-dire celui qui a eu l'onction, c'est-à-dire qu'on a mis de l'huile sur sa tête, parfois en quantité plutôt. Et ça c'était quelque chose en Israël qui était fait seulement à trois types de personnes, à certains prophètes, aux rois et aux prêtres. Et en Israël, il n'y avait personne pour incarner les trois offices en même temps. C'était des offices séparés. On ne pouvait pas être les trois en même temps. Il y avait la séparation des pouvoirs, si on peut dire. Mais le Messie était celui qui allait incarner les trois en même temps. Alors là, les disciples, quand ils entendent, quand ils ont la confirmation que Jésus est bien le Messie, ce roi annoncé, ils ne sont plus seulement des disciples, ils deviennent même des partisans d'un leader. Ils savent que si c'est bien lui le roi, il doit aller à Jérusalem pour être couronné. Et c'est ce qui va se passer. Pourtant, la suite est un peu surprenante. À partir du verset 30, on peut lire, Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et là, le plan n'est plus très clair pour les disciples. Au point que même Pierre se met à reprendre Jésus. Alors, là, Jésus le remet durement à sa place. Et puis, il a à nouveau un discours. Il va s'adresser à la foule qui était pas loin. Verset 34. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ensuite, on a un chapitre 9, une parenthèse presque. Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ses disciples les plus proches, montent sur une montagne et voient Jésus transfiguré. Ça veut dire qu'il resplendit, c'est unique en fait comme événement, il va se mettre à briller très fort et puis il va y avoir une voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors j'aurais bien envie de m'attarder dessus, mais je l'ai déjà fait par le passé. Ils vont ensuite redescendre de la montagne. Jésus va leur parler de la résurrection. Et une fois de plus, il leur dit au verset 12, « Pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ?» Encore un truc qui n'est pas raccord avec ce roi triomphant. Arrivés en bas de la montagne, ils vont se retrouver au milieu d'une situation compliquée. Il y a les disciples qui étaient restés en bas. Ils ont essayé de délivrer un enfant qui avait un esprit mauvais, qui l'empêchait de parler, et ils n'ont pas réussi. Alors Jésus s'indigne du manque de foi, de leur manque de foi, et puis il délivre cet enfant. Ensuite, alors je vais vite, hein. Jésus ensuite va répéter encore une fois son enseignement qu'il avait donné au chapitre 8, au verset 31. « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir 3 jours après. » Et 3 jours après, avoir été mis à mort, pardon, il ressuscitera. Les disciples n'osent pas lui poser de questions. Mais après, sur le chemin, ils se mettent à discuter entre eux, de savoir qui serait le plus grand parmi les disciples. Jésus les reprend. Verset 35, il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et puis après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Je saute un peu, je vais plus loin, au chapitre 10. Ils arrivent en Judée, donc ils ont fait 200 kilomètres. De l'autre côté du Jourdain, ils s'approchent de Jérusalem. Et là, il y a des pharisiens qui viennent à nouveau s'opposer à lui, c'est-à-dire les responsables religieux, et ils tentent de le piéger en posant une question sur le divorce. Ensuite, il y a des enfants qui viennent vers Jésus. Les disciples, dans un premier temps, ils les repoussent, mais Jésus les reprend et bénit les enfants. Et il dit aux disciples, « Je vous le dis, en vérité, au chapitre 10, verset 10, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Et par opposition, ensuite, il y a un jeune homme riche, bien sous tout rapport, quelqu'un d'honnête, et qui est même, on dirait aujourd'hui, en recherche spirituelle, il vient vers Jésus pour lui poser une question. Celui-là est mis à l'épreuve par Jésus. Jésus lui dit, au verset 21, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Traitement difficile, et lui ne relève pas le test, il repart tout triste. Ensuite, on va prendre ensuite au verset 23, et je vais le lire jusqu'à la fin. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, bien des derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. C'est la troisième fois qu'il en parle. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Et si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà un très long texte. J'ai pris un long texte pour qu'on voit les thèmes récurrents et prendre enseignement dans sa grande largeur, on va dire. Et on s'intéresse d'abord aux partisans, c'est-à-dire les disciples. Jésus a un message pour les disciples, mais il semble que ça a du mal à passer. Il est obligé de se répéter. Et les disciples n'osent pas l'interroger. Plusieurs reprises, on voit qu'ils ont peur. Et je me demande un peu pourquoi. Est-ce qu'ils ont peur juste de ne pas comprendre, comme Pierre, d'être repris, avec dureté, certes? Aussi, quand ils n'ont pas réussi à délivrer le jeune démoniaque, Jésus leur a reproché leur manque de foi. Jésus est un bon maître, et il est donc exigeant. Ceci dit, je me demande si les disciples n'interrogent pas Jésus de peur de comprendre, et pas de ne pas comprendre. En effet, le sujet dont il parle les concerne de très près. On a l'impression que c'est, c'est facile à comprendre. Il parle des marques des vrais disciples, que je résume en trois parties. Il y a une partie de renoncement, une partie de sacrifice et une partie de service. Donc d'abord, le renoncement. Pour être disciple, il faut renoncer à sa vie. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Alors, qu'on soit d'accord, la Bible n'encourage pas de comportement suicidaire. Mais cette phrase nous parle de priorité. Jésus déclare être au centre de tout. On ne peut pas faire de choix partiel à son sujet. C'est le royaume qui doit être la priorité du disciple. On ne peut pas être disciple de Jésus et par exemple des richesses, comme l'était ce jeune homme qui paraissait au premier abord tout à fait convenable. Ça implique aussi que les disciples doivent être prêts à abandonner leurs ambitions, leurs richesses, et on l'a vu, tout un tas de choses en fait, à abandonner sa maison, sa famille, ses parents, à tout abandonner quelque part, si c'est pour Jésus ou pour la bonne nouvelle. Pour les disciples, ce qui semble difficile à eux, qui ont déjà quitté leur richesse, c'est peut-être surtout l'ambition personnelle. Ils se posent plusieurs fois la question, qui est le plus grand ? Ils en discutent, donc on l'a vu, une première fois, une deuxième fois après, quand Jacques et Jean font leur demande. Et bon, ces ambitions personnelles, on voit que rien que dans cette petite communauté de 12 disciples, ça casse déjà l'ambiance. Il y a une mauvaise... La communauté est pourrie par ses ambitions. Ça peut paraître grossier de la part des disciples de se comporter comme ça. Je pense que Marc résume, hein, c'était peut-être plus subtil que ça. Et peut-être que c'était assez proche de ce que nous, on pourrait vivre dans différents cercles dans lesquels on vit. À ce moment charnière où un leader prend, s'affirme et est prêt à prendre le pouvoir, ses partisans, en général, se comportent comme un panier de crabes, on dit. C'est à jouer des coudes pour être au plus proche du leader. On espère une bonne position. Comme Jacques et Jean. Et quelque part, Jacques et Jean, on pourrait les blâmer quand on les voit arriver comme ça, on se dit, mais ils se prennent pour qui ? Mais en même temps, ils ont discerné des choses. Ils voient que Jésus est vraiment le Messie, ils font preuve de foi. Ils se trompent pas d'objectif. Parce que nous, on pourrait avoir des ambitions aussi sur des choses qui sont complètement à côté de la plaque, très loin du royaume. On peut vouloir être le premier dans son travail, dans sa famille, dans son club, sur plein de choses. Et déjà, Jacques et Jean visent déjà le royaume de Dieu. Mais la manière dont ils abordent les choses, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume du Fils de l'homme. Jésus accepte des personnes, accueille des personnes sans prétention, sans calcul. Et c'est le cas des enfants qu'il vient accueillir. Par la suite, il y a aussi cet aspect de sacrifice. Et ça, on voit, Jacques et Jean, ils l'ont intégré. Ils sont prêts à boire cette coupe, à vivre ce baptême. C'est de ça que ça parle, en fait, ces mots-là. On parle de la coupe de souffrance et du baptême, de la mort et de la résurrection de Jésus. Je pense à la lecture, à la relecture et la re-relecture que Jacques et Jean discernent en partie de quoi il s'agit. Ils ne parlent pas à la légère pour pouvoir répondre aussi abruptement à Jésus. Ils ne voient pas de coupes qui sont posées là. Ils savent que ça va être dur. C'est des partisans qui sont prêts à soulever un royaume. Et donc ce n'est pas parce qu'on a renoncé à tout qu'on va être chouchouté, qu'on va être épargné. Au contraire, dans la liste des bénédictions qui sont données à ceux qui ont fait des renoncements pour le royaume, pour la bonne nouvelle, il est question de persécution, avec des persécutions. Il y a cette phrase au début, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de cette croix, et qu'il me suive. » Cette croix, c'est pas n'importe quelle souffrance, c'est la souffrance de la persécution. C'est assez clair, à la fin du chapitre 8, cette idée que celui qui aura honte de moi ou de mes paroles au milieu de cette génération, hein, c'est cette génération qui a rejeté Jésus. Et comme le dit Matthieu, le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. normalement, un disciple doit être traité comme le maître a été traité. Et il a été crucifié. Le dernier aspect, et peut-être le plus difficile pour le disciple, ça va être la question du service. Jésus a répondu à Jacques et à Jean, « Ce n'est pas le cas au milieu de vous, » parler des rois qui dominaient durement sur leur sujet, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » C'est ça le principe de fonctionnement à côté duquel ils sont passés. Le projet de vie du disciple, ce n'est pas de jouer des coudes pour monter dans la hiérarchie. Ce comportement, c'est celui de ce monde, des chefs de ce monde. Même si nous quittons tout pour suivre le leader, même en prenant part à ses souffrances, on n'est pas exempté de service. La grandeur dans le royaume de Dieu se mesure au service. Et pour donner un exemple, Jésus l'a dit dans ce texte, alors c'est une partie que j'ai pas lue, ça commence simplement par donner un verre d'eau. Ça commence simplement par son prochain, le plus proche. Il s'agit d'être serviteur, comme un domestique, c'est les mots doulos, le mot qui est utilisé, même esclave. Ça c'est doulos, ouais, l'autre c'est diakonos. Comme dans un couple, si chacun cherche son propre intérêt, cherche à dominer l'autre, l'union va être bancale, ça va être compliqué. Ça je vous l'assure. Quand au contraire chacun se met au service de l'autre, cherche à l'aimer en pratique, alors là c'est le top. Tout le monde y trouve son compte. Et c'est peut-être pour cela que Marc intègre dans ce chapitre cette discussion sur le divorce avec les pharisiens. Force est de constater que le divorce c'est souvent lié à l'égoïsme de l'un, de l'autre, des deux, des comportements égoïstes. Si tu mets ta petite personne en premier, dans ton mariage, je ne donne pas cher de ton mariage. Et si chacun de nous met sa petite personne en premier dans l'église, que devient l'église? Et peut-être qu'à ce stade, on est un peu comme les disciples, on aurait peur de poser trop de questions, parce qu'on sent que le poids est lourd. C'est pour ça que maintenant on va s'intéresser au leader. C'est ma dernière partie. S'il demande à ses disciples de ne pas être des partisans comme les autres, lui-même n'est pas un leader comme les autres. Si dans cette équipe, il y a quelqu'un qui fait preuve de renoncement, de sacrifice et de service, c'est lui. Le dernier verset de cette partie, 10, verset 45. « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors ça, c'est le verset que certains considèrent comme le résumé de l'évangile de Marc. C'est un verset clé, à peu près vers le centre de l'évangile. En venant, le fils de l'homme a renoncé au privilège immense lié à sa position céleste auprès du Père, et ça, vous l'avez lu ce matin, dans Philippiens 2. Il est devenu le serviteur parfait, accomplissant pleinement et parfaitement la loi, en aimant son prochain en pratique. Et enfin, il s'est offert en sacrifice à souffrir sur la croix. La couronne qu'il est allé chercher à Jérusalem était une couronne d'épines. Même si les disciples sont un peu confus à ce stade, cette description du Messie correspond parfaitement à celle qui est donnée dans Ésaïe, 700 ans avant l'arrivée de Jésus. On parle dans Ésaïe, il y a plusieurs passages, il y en a quatre, on voit, on appelle ça les chants du serviteur. Le serviteur, encore une fois. À partir du chapitre 40, il y a deux personnages dans Ésaïe qui sont appelés serviteurs. Il y a le premier qui est identifié, même nommé, c'est Cyrus, qui est un serviteur qui va, donc un roi perse, qui va permettre à une partie d'Israël de revenir après l'exil dans son pays. Mais il y en a un second, très différent, qui est révélé progressivement comme s'il était plus grand, mais qui est plein de douceur, qui apporte un message de salut, qui vient de Dieu pour Israël, mais aussi, il est aussi dit être la lumière des nations. On voit qu'il va être persécuté, mais qu'il tient ferme. Ça, c'est dans les premiers passages, où c'est par petites touches. Et après, il y a le dernier chant, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent presque par cœur, qui est la fin du chapitre 52, et surtout tout le chapitre 53. C'est un monument. Il est si clair, si tellement en accord avec les évangiles, que beaucoup l'ont appelé le cinquième évangile, bien qu'il ait été écrit 700 ans plus tôt. Voire même 800. C'est indubitablement à ce passage que Jésus fait référence quand il parle au chapitre 9, verset 12, il parle des souffrances et du rejet du Fils de l'homme. Quelque chose qui s'accomplit là, c'est quelque chose de prévu à l'avance. Et d'ailleurs, ça va nous aider à comprendre un peu, grâce à Isaïe, ce que veut dire Jésus quand il dit « donner sa vie en rançon pour tous ». Isaïe l'a expliqué donc au chapitre 53, verset 5. « Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos souffrances. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus a donné sa vie de parfait serviteur pour les fautes des disciples. La punition juste que méritaient nos fautes et nos transgressions, c'est la mort. Et lui, il l'a subi à notre place. Si nous l'acceptons et que nous reconnaissons que celui qui s'est rendu esclave de tous mérite lui maintenant d'être le premier dans le monde et dans nos vies. C'est un exemple pour nous, les disciples. Si nous sommes ses disciples. Maintenant, vous dites que, ok, je veux bien imiter cet exemple, je suis prêt à reconnaître Jésus comme Messie, mais j'en suis pas capable. Je suis pas du tout sûr de pouvoir renoncer à tout, je suis pas sûr de pouvoir accepter la souffrance, et puis d'être constant, de m'engager dans le service, plus que le temps d'une résolution de quelques jours. Et si vous vous dites cela, si vous dites que vous n'êtes pas capable, vous avez raison. Vous êtes sage. Ça, c'est rare qu'on vous dise ça. Aujourd'hui, on dit tout est possible, il suffit d'y croire. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Heureusement, Jésus va plus loin que cela. Jésus, il ne se contente pas de dire « suivez mon exemple ». Il y a un passage, le passage où cet enfant, cet enfant qui a ce démon, se fait guérir. D'abord, Jésus va reprocher le manque de foi des personnes qui sont là. Le père de l'enfant qui était là, il était dans cette même situation. Il a envie, mais il n'est pas sûr d'y arriver. Et ceci dit, en face de lui, il y a son seul espoir, c'est Jésus. Sûr de rien, il dit quand même à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, chapitre 9, verset 22, « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus complète, il répond ensuite à cette foi chancelante. Il complète les démarches les plus fragiles dès lors qu'on se remet à lui. C'est par sa force que ça va se faire. J'avais entendu cette image que je trouve très juste. Si on traverse un lac gelé, on a envie de traverser un lac gelé, c'est rigolo. Si la glace est trop fine, on passe à travers. Peu importe la foi qu'on a dans cette glace. On peut se dire qu'elle est solide, si elle est trop fine, on passe à travers. De même, si la glace est suffisamment épaisse et qu'on avance à des petits pas hésitants, sans trop savoir, on traversera quand même le lac. C'est pas tellement la quantité de foi qui va jouer, c'est ce en quoi on met notre foi. Et c'est Jésus qui est la force et la garantie de notre salut et de notre marche. Ce qui nous manque pour renoncer, pour supporter la souffrance et pour servir. Jésus est plus que fiable, il est en effet victorieux. À chaque annonce de sa mort, c'est petit, c'est à la fin, mais il dit, il parle de sa résurrection. Et là où c'est le plus évident dans ce passage, c'est au moment de la transfiguration. On voit Jésus qui resplendit. Il a quelque chose d'autre. Il montre à l'avance sa victoire, en fait. Et ça nous permet pour nous d'écarter l'inquiétude. La rançon est payée, le combat est gagné, est déjà gagné. Notre participation maintenant, c'est juste de servir. Je vais finir par une anecdote véridique aussi, malheureusement tragique, et qui se répète. La semaine dernière, j'ai écouté un reportage sur les migrants qui traversent la Méditerranée, qui fuient la Libye sur des embarcations de fortune. Et en pratique, ils n'ont aucune chance de traverser sans que quelqu'un vienne les secourir. Et alors, ils interviewaient un sauveteur. Ils avaient un bateau pour s'occuper des migrants. Ils faisaient des allers-retours avec l'Italie. Et ils racontaient que quand ils s'approchaient d'un bateau, la chose la plus importante, c'était de contrôler la foule. D'éviter qu'il y ait une panique, d'éviter que les gens se marchent dessus, s'écrasent, s'étouffent, ou se jettent à la mer. Et pour cela, il leur tend, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il leur tend des gilets de sauvetage. Il leur dit, c'est pas pour vous, il faut passer au fond du bateau. Il faut passer aux plus faibles, il faut passer aux femmes, aux enfants. Ce sera d'abord eux. Tout ça, certes, pour qu'au cas où ils tombent dans l'eau, ils soient sauvés, ils ne se noient pas, mais surtout pour qu'ils arrêtent de penser à eux-mêmes, à leur propre souffrance. Pour pas qu'ils se ruent chacun vers le bateau de secours. Sachant que de toute façon, maintenant que le sauveteur est là, c'est bon, ils vont s'en sortir. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Le sauveteur est là. On n'a pas à se comporter égoïstement si on est des disciples. Il faut juste coopérer sagement dans le service. Et malgré les souffrances, j'ose espérer que ça ressemble dans une certaine mesure au mariage heureux de gens qui se mettent au service les uns des autres pour des choses tout à fait simples. On va prier. Le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais donner sa vie en rançon pour beaucoup. Seigneur, nous voulons faire partie de ces beaucoup. Nous sommes émerveillés du sacrifice, du renoncement que tu as fait pour nous et de l'exemple que tu nous donnes. Nous confessons que nous sommes souvent dans nos petits calculs, peut-être même parfois un peu inconsciemment. On a envie d'être bien vu. On a envie d'être devant. On a envie de faire mieux pour se sentir bien. On a envie d'éviter la souffrance, être plus confortable plutôt que de servir. On veut te remercier parce que par ta grâce, tu veux nous transformer. Tu veux nous donner les forces pour être des meilleurs disciples. Et on veut s'attendre à toi aussi pour cette semaine qui commence. Tu vois chacun les épreuves qu'on a à affronter. Tu vois chacun nos propres manquements. Et aide-nous à tenir ferme, à savoir renoncer à ce qui entrave ton royaume dans nos cœurs et dans l'Église. Savoir accepter la souffrance, chercher à peut-être apprendre ce que tu as voulu qu'on apprenne dans les circonstances que tu mets devant nous, à te remettre nos souffrances, toi qui est tout à fait capable de compatir, et à se mettre au service pour toi. C'est tout un programme, mais c'est un programme de grâce parce que tu es le sauveteur, tu es déjà là pour nous. Et nous t'en remercions, la victoire est assurée en toi. Amen.